France Culture, il est 16h. Tout de suite, Révolution médicale, René Friedman.
Révolution médicale. Une émission de René Friedman. Avec aujourd'hui comme invité
Charles Cour.
Professeur Charles Cour, nous allons parler de l'os, du dur, la chirurgie qui s'occupe de l'os, des tendons, des muscles, tout ça, mais spécialement bien sûr de l'os. Professeur Charles Cour, vous êtes chef de service d'orthopédie à l'hôpital de Bicêtre et vous êtes aussi secrétaire général de la Société d'orthopédie et de traumatologie. Alors sur ce dernier point, il y a d'abord deux choses. La première, c'est qu'elle existe depuis quand même fort longtemps, puisque je crois qu'elle va fêter un anniversaire dans peu de temps.
Son centenaire, en 1918, c'était sa création, donc dans deux ans.
Donc ça fait longtemps qu'il y a une activité chirurgicale autour de l'orthopédie qui a énormément évolué. D'ailleurs, on va le voir tout à l'heure, on va faire un petit historique. Et puis l'autre chose, c'est que dans le terme, il y a orthopédie et puis traumatologie. Et on voit bien qu'il y a deux aspects. L'un, celui qui est en urgence, c'est les accidents, quoi, la traumatologie, bien sûr. Et puis l'orthopédie, ce qu'on appelle la chirurgie froide, c'est-à-dire lorsqu'il y a une déformation ou une reprise à faire. Enfin, voilà. Et vous êtes dans les deux domaines, bien sûr. On fait jamais l'un sans l'autre.
Oui, en France, on fait jamais l'un sans l'autre. Alors, peut-être pour bien éclairer, l'orthopédie, c'est vrai que souvent on pense orthopédie, semelle orthopédique, pied. La chirurgie orthopédique, ce n'est pas la chirurgie du pied, c'est comme vous l'avez dit, la chirurgie de l'appareil locomoteur, c'est-à-dire ce qui va servir dans la vie courante à se déplacer, à se mouvoir. Et donc ce sont les os, les articulations, les tendons, les muscles et les nerfs.
Alors effectivement, c'est ce mot orthopédie qui vient donc orthos droit et paidera éducation des enfants était quand il était inventé par Nicolas André de Boisregard en 1741.
Absolument.
J'ai mes notes. Eh bien, il s'adressait aux enfants. Il s'agissait de redresser les enfants qui n'étaient pas droits, hein, parce qu'à l'époque il y avait quand même beaucoup de maladies osseuses.
Absolument.
Qui ont fait, heureusement dans nos pays en tous les cas, ont disparu. Donc c'était surtout la correction des difformités du corps de l'enfant, c'était les fameuses scolioses, je dirais les pieds beaux et puis autres anomalies comme ça. Effectivement, de tout temps, d'abord il y a eu des guerres, il y a eu des traumatismes, il y a eu ces malformations et on a essayé donc de réduire cette malformation. C'était les premiers orthopédistes en mettant des attelles, remettre l'os droit le temps que ça se soude et on verra tout à l'heure un peu plus dans le détail par quel mécanisme l'os arrive à reconstituer de l'os, quoi, en un mot. Hein, c'est pas une matière inerte, alors que ça a l'air inerte, mais ça ne l'est pas du tout. Donc il y a comme ça, je dirais, certains qui sont spécialisés dans des appareils, on va dire, ça semblait un peu des appareils de torture quand même, hein, parce que les extensions, les retorsions, enfin les corsets en particulier, hein, qui étaient proposés. Et puis arrive la chirurgie. C'est-à-dire la possibilité quand même de créer ce qu'on appelle une ostéosynthèse.
Oui. Hein,
vous allez mettre du matériel et puis bien sûr remplacer carrément et déjà assez vite les prothèses. On va pouvoir se proposer quelques prothèses parce que évidemment il va falloir un petit peu développer ça en termes de matériaux. Vous allez nous expliquer tout ça et peut-être une grande étape et puis aussi une médecine française. Hein, les frères Judet.
Oui, absolument. Alors, juste pour revenir un petit peu sur l'historique, comme vous l'avez très bien fait, effectivement, Nicolas Andry invente ce mot d'orthopédie en 1740. Puis, il va y avoir le baron Larrey, comme vous l'avez dit, chirurgie napoléonienne, la chirurgie de guerre.
Mais lui, c'était amputation.
C'était amputation, mais il avait compris qu'il fallait faire tout de suite l'amputation pour éviter la gangrène. C'était une époque où on ne connaissait
pour
traiter l'infection. Donc, il sauvait la vie des patients. C'était la première damage control, ce qu'on appelle aujourd'hui. Et puis, en fait, c'est la conjonction de plusieurs facteurs qui vont faire se développer la chirurgie au début du XXe, c'est-à-dire la découverte des rayons X par Rothkron, fin 19e, donc on va enfin voir l'os.
On va pouvoir avoir un diagnostic, c'est ce qui s'est passé, pas uniquement manipulation.
On va voir les fractures, on va voir ce qui se passe à l'intérieur. Le développement de l'anesthésie, donc qui va permettre de faire des chirurgies plus ambitieuses. Et puis, les matériaux qui vont s'améliorer, comme vous l'avez dit, avec l'industrialisation et donc le traitement des matériaux, des alliages qui vont se développer. Donc, on va voir effectivement apparaître, donc fin de la Grande Guerre, Deuxième Guerre, on va voir apparaître des grandes innovations, en particulier l'arrivée des antibiotiques, et puis avant la découverte par Pasteur de la sepsis, ce qui va révolutionner la chirurgie. Et puis, effectivement, les années 50, les frères Judé qui inventent la première prothèse de hanche acrylique. Alors, c'était les premiers essais. Après, la grande innovation sur les prothèses, par exemple, ça va être les années 60, avec Charnley, un chirurgien anglais, qui va poser les premières prothèses de hanche.
Et lui, ça va être une prothèse totale.
Absolument.
C'est non seulement la tête du fémur, hein, voilà. Mais c'est la cupule dans laquelle ça s'insère, absolument. Pour éviter que ça se déboîte, comme ça faisait un peu trop précédemment.
Et puis, on va effectivement remplacer les deux surfaces articulaires. Et c'est une prothèse qui va avoir...
Une très longue vie,
effectivement, qui va y avoir des innovations, des changements. Mais c'est une prothèse qui reste encore posée. Et aujourd'hui, pour vous donner un exemple, c'est 150 000 prothèses de hanches qui sont posées par an en France. Oui. Alors qu'avant, c'était vraiment confidentiel. Donc, vous voyez, en 50 ans, le bond en avant qui a été réalisé, avec aujourd'hui même des chirurgies de la prothèse de hanches qui se font en ambulatoire.
Oui, on va en parler.
Donc, des innovations extrêmement importantes. Autre grande innovation qui était en fait la première chirurgie mini-invasive, puisque c'est quand même souvent actuellement d'actualité, c'est l'arthroscopie. Découverte d'arthroscopie, les premières chirurgies dans
c'est-à-dire
les années...
C'est-à-dire qu'on va voir à l'intérieur de l'articulation, voilà, par une petite optique.
Exactement, on va mettre une caméra à l'intérieur des articulations, au début le genou, maintenant toutes les articulations sont accessibles.
Alors le genou intéressant pour les problèmes de ménisque et ligaments.
Et les ligaments, voilà, aujourd'hui, donc l'arthroscopie c'est les années 60-80, les premières chirurgies. Aujourd'hui, on refait un ligament croisé antérieur à l'intérieur du genou par des petits trous avec l'arthroscopie. Et pareil, là aussi, en chirurgie ambulatoire. Donc, on voit les révolutions et les évolutions extrêmement rapides de toutes ces innovations.
Et alors, on a l'impression qu'on s'est attaqué à des articulations. Il y a des étapes. Parce que la hanche, vous l'avez dit, c'était d'une part, c'est assez fréquent. Oui. Mais ensuite, on a, par exemple, les prothèses d'épaule qui apparaissent.
Le genou.
L'épaule. On voit, il faut du temps pour modeler, pour créer ces prothèses adaptées.
Effectivement, c'était l'argument de fréquence, puisque la coxarthrose, l'arthrose de la hanche, c'est-à-dire le vieillissement de la hanche, c'est le plus fréquent, l'atteinte la plus fréquente. Donc, on s'est d'abord intéressé à la hanche. Mais après, aux autres articulations, le genou, actuellement le genou est la pathologie la plus dégénérative, la plus importante, en augmentation. Et effectivement, ce ne sont pas du tout les mêmes mécaniques, biomécaniques que les articulations. On ne peut pas, une épaule, c'est radicalement différent d'une hanche. Et donc, ça veut dire repartir, je dirais, à zéro dans la recherche, dans la mise au point des prothèses à chaque nouvelle articulation.
Mais professeur Cour, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que l'ensemble de ces articulations, donc les principales, là, bien qu'on pourrait parler aussi de la cheville, sont quand même maîtrisées? On a une offre quand c'est nécessaire.
On peut remplacer effectivement beaucoup d'articulations, quasiment toutes. Encore faut-il que cela ait un intérêt.
C'est nécessaire,
mais d'abord un intérêt, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir redonner de la mobilité. Donc ce qui est intéressant, c'est pour les articulations très mobiles. La hanche, le genou, l'épaule en sont des très bons exemples. Et aujourd'hui, ces prothèses, effectivement, sont mises de façon courante. Le genou, la prothèse de genou, c'est 80 000 poses par an en France. Donc c'est quelque chose de courant. Ça ne veut pas dire que c'est une chirurgie sans risque et simplex. Hein. C'est une chirurgie maîtrisée, mais qui est une chirurgie courante.
Alors, on le disait, il y a d'une part la traumatologie, donc ça c'est, on ne sait jamais ce qu'on va trouver. C'est souvent multiple d'ailleurs, pluri-atteinte. Il y a tout ce qui est les malformations, et c'est vrai qu'on a tendance à oublier fort heureusement, par exemple, les séquelles de la tuberculose osseuse, oui. Qui laissait des déformations
très importantes. Ouais.
Moi, j'ai eu l'occasion de connaître le professeur Debert à l'époque, dans les années 60-75, qui était à Henri Mondor, mais qui était responsable de Berck, le fameux endroit où les enfants qui étaient atteints de problèmes orthopédiques graves, de séquelles, étaient traités. Et puis il y a bien sûr les tumeurs aussi, tout ce qui peut, toutes les maladies qui peuvent atteindre l'os. Et d'ailleurs, on en parlera puisque vous connaissez bien les métastases osseuses. Mais je voudrais qu'on s'arrête juste un instant sur les maladies génétiques de l'os. Parce que, je veux dire, ce sont des maladies rares, mais qui existent, et c'est l'obstétricien que je suis, l'échographiste que je suis, et que vous avez autour de vous à l'hôpital de Bicêtre, dans la médecine anténatale, on dépiste de plus en plus, je dirais, ce type d'anomalie, dont certaines ne permettent pas d'ailleurs la vie, hein, et d'autres, oui, mais dans des conditions très difficiles, très redoutables. Donc il faut savoir qu'il y a, tout un tas, il y en a à peu près une soixantaine hein, de maladies génétiques qui peuvent atteindre l'os, donc visibles. On peut même faire des très belles images, en point de vue image, hein, du fœtus osseux. Hein, on voit tous les os, je veux dire, très bien, et on peut donc faire tout un tas de diagnostics génétiques avec des transmissions qui sont autosomiques ou bien qui sont liées à l'X ou bien qui sont dominantes. Donc c'est des choses qui sont assez assez parfois difficiles. On parlait aussi du nanisme. Est-ce que vous avez été amené à essayer de faire grandir?
Alors personnellement non, puisque je ne fais pas de chirurgie infantile orthopédique, mais il y a effectivement des traitements d'allongement de membres qui restent quand même des projets extrêmement ambitieux, et difficiles et lourds, et qui sont réservés à des centres très spécialisés pour la prise en charge.
Il y a, pour les maladies rares, pour ceux que ça intéresse, le site Orphanet, www.orphanet.fr, maladies rares aussi, où vous pouvez avoir plus de renseignements si malheureusement les choses vous sont arrivées ou dans le voisinage. Il y a aussi une maladie génétique qui est assez assez incroyable, ce qu'on appelle la maladie des os de verre.
Oui.
Où ce sont tout se casse quoi, au moindre choc.
Voilà, c'est une grande fragilité osseuse.
Et donc ça entraîne des interventions sur interventions sur interventions.
Voilà, ça entraîne des problèmes de développement des os, et donc de la taille pour les personnes qui en sont atteintes, et puis des fractures itératives, des répétées, et des déformations des membres. Donc c'est une maladie, effectivement, qui a aussi des retentissements sur le plan général, pour respiratoire, avec les fractures de côte, les fractures de la colonne, effectivement. Alors il y a plusieurs grades, il y a des formes peu importantes et des formes très graves.
Alors, en fin de compte, quand vous recevez un blessé qui a des fractures, enfin qui semble avoir des fractures ou qui peut avoir des fractures, bien entendu, vous allez vérifier s'il n'y a pas des lésions associées. Hein, d'une part, si c'est ce qu'on appelle une fracture ouverte, c'est-à-dire avec la peau qui est lésée, qui est source d'infection, ou bien atteinte neurologique, ou bien d'autres atteintes vasculaires. Et vous allez surtout faire appel à l'imagerie. Vous le mentionnez tout à l'heure, c'est bien sûr que la radio a été un point fondamental. Ma question est la suivante. Est-ce qu'aujourd'hui, la radio est toujours pratiquée, mais est-ce qu'elle est dépassée par d'autres, ou complémentée plutôt que dépassée d'ailleurs, par d'autres aspects comme le scanner, comme l'IRM, et même comme le OS par exemple?
Alors oui, la radiographie standard, classique, elle reste d'indication en traumatologie ou en chirurgie courante, mais dès lors qu'on veut affiner les diagnostics, par exemple une fracture complexe qui touche une articulation, le scanner est indispensable. Et aujourd'hui, on a des logiciels de reconstruction tridimensionnelle.
On va y venir parce que c'est un des points capitaux.
Qui vont donner une image 3D extrêmement intéressante.
Mais le scanner, lui, il va faire des coupes.
Il va faire des coupes.
L'avantage par rapport à l'image radiologique.
Voilà, c'est pas une ombre chinoise, c'est vraiment la radio, c'est une ombre chinoise, tandis que le scanner sont des coupes millimétriques qui vont permettre d'avoir une analyse très précise des déformations, des lésions, des fractures, et reconstruire en trois dimensions l'articulation, par exemple.
Donc on va faire plan par plan.
Plan par plan. Et aujourd'hui, avec des scanners qui font des acquisitions extrêmement rapides. Et vous citiez la traumatologie, ce qui permet aussi un scanner, un patient qui est polytraumatisé avec beaucoup de lésions, effectivement, le scanner va permettre, on va passer le patient dans le scanner, on va dire, le corps entier, et on va pouvoir ainsi détecter des lésions aussi d'autres organes.
Alors, et l'IRM, qu'est-ce que ça vous apporte maintenant comme type d'image?
Alors, l'IRM est extrêmement intéressante, vous l'avez cité, pour les pathologies tumorales, pour les cancers, puisqu'elle va permettre d'analyser extrêmement bien tous les tissus autour de l'os ou à l'intérieur de l'os. L'IRM n'est pas un très bon examen pour analyser l'os en lui-même et en particulier sa texture, sa qualité mécanique. C'est le scanner qui reste le meilleur examen. Mais l'IRM va permettre de détecter des micro-fractures, par exemple, fractures en particulier dans l'ostéoporose, des micro-fractures qu'on ne voit pas sur un scanner ou une radio, et puis analyser l'envahissement dans les tumeurs, en particulier tous les rapports de cette tumeur avec les vaisseaux, les nerfs. Donc ça reste un examen extrêmement intéressant. Et dans la traumatologie de la colonne vertébrale aussi, pour analyser la moelle, les lésions nerveuses, les lésions discales.
France Culture, Révolution Médicale, René Friedman.
Professeur Charles Lecourt, nous parlons donc d'orthopédie, de traumatologie. Nous avons fait un petit peu d'historique et maintenant nous allons, bricoler. Enfin, c'est gentil hein, ce que je dis parce que quand moi j'ai fait donc un petit peu d'orthopédie à mes tout débuts et en fait ma mission c'était d'aller au BHV pour acheter les perceuses et les vis qu'on faisait stériliser hein, parce qu'il n'y avait pas encore le département de BHV médical et d'autres outils bien sûr. Donc on était en plein dans les plaques, les vis, le ciment, les clous internes, les fixateurs externes et tout ça. Alors c'est vrai que vous, on avait la vision de après une fracture, parfois on mettait les gens en extension,
en traction,
voilà, avec un grand poids qui était au bout du lit.
Ouais.
Je pense que ça continue dans certains cas. Alors,
oui, dans certains cas, de moins en moins, parce qu'aujourd'hui nous avons à notre disposition des matériaux, du matériel, comme vous avez dit, d'ostéosynthèse, c'est-à-dire l'ostéosynthèse. Ça veut dire fixer un os pour qu'il puisse consolider en cas de fracture. Et donc aujourd'hui, l'idée est de pouvoir faire une ostéosynthèse très rapidement chez un patient qui a une fracture, de façon à lui redonner de la mobilité, redonner la mobilité aux articulations sus et sous-jacentes à cette fracture, de façon à qu'il puisse récupérer le plus rapidement possible ses fonctions articulaires.
Oui, parce qu'un des grands dangers, c'était, j'ai envie de dire, mais ça l'est peut-être encore un peu, mais c'était surtout, par exemple, les escarres, quand on restait longtemps allongé.
Voilà, absolument.
Hein, c'était les troubles de la peau, les infections, et là, on risquait de tout perdre.
Voilà, donc le but, effectivement, c'est qu'un patient soit... on va dire reverticaliser, voire même remarcher le plus rapidement possible. Et ce que vous citez à propos des escarres, c'est en particulier le problème de la traumatologie des patients âgés. Aujourd'hui, on appelle même l'orthogériatrie, hein, l'orthopédie de la gériatrie, qui est quasiment une spécialité à part entière, où effectivement, là, on a un os qui est extrêmement fragile, dû à l'ostéoporose, avec des fractures
très fréquentes. Fixer quelque chose
exactement, dessus, c'est comme dans un mur avec un plâtre de mauvaise qualité, rien ne va tenir dans le plâtre, c'est le plâtre qui va s'arracher.
Oui.
Et là, c'est le problème d'avoir des ostéosynthèses de qualité, donc on les renforce avec certains procédés. Et puis, l'idée étant toujours de que le patient puisse tout de suite sortir de son lit et éviter les complications dites du décubitus, c'est-à-dire les complications lorsqu'on reste allongé, comme vous l'avez cité, les escarres par exemple.
Alors, on comprend mieux cette volonté que vous avez dans votre spécialité comme dans d'autres, mais quand même dans votre spécialité de tout faire pour permettre la chirurgie dite ambulatoire, c'est-à-dire celle qui va permettre à la personne de retourner dans son domicile le plus rapidement possible et d'avoir une mobilité. C'est bien ça ?
Absolument. La chirurgie ambulatoire, donc on rentre le matin, on se fait opérer et on sort le soir à domicile. L'idée est de diminuer la durée d'hospitalisation à son plus simple appareil, on va dire, c'est-à-dire une journée, de façon à éviter des complications éventuellement dans l'hospitalisation, tout en gardant, évidemment, en faisant la même chirurgie, la même qualité des soins. Il est hors de question de faire de la chirurgie ambulatoire à tout prix, au détriment de la qualité des soins. Donc ça nécessite des organisations, ça nécessite des adaptations parfois de techniques chirurgicales, de techniques anesthésiques qui vont permettre aux patients très rapidement d'être, comme vous le dites, ambulatoire, c'est-à-dire d'être capable de rentrer à son domicile la journée même et d'être autonome très rapidement.
Est-ce que ça, c'est pas possible, ce n'est possible que parce qu'il y a un lien qui se fait, en particulier avec la rééducation, avec la kinésithérapie qui a fait aussi d'énormes progrès, qui est indispensable. Parce qu'une fois que vous avez terminé votre geste, aussi particulier soit-il,
absolument.
Après, il faut reprendre l'articulation et la marche.
Justement. Absolument, absolument. La chirurgie ambulatoire, c'est un système organisationnel, en fait, où tous les acteurs qui vont prendre en charge le patient doivent être coordonnés. Donc, comme vous l'avez...
Oui, parce que votre geste va être le même.
Voilà, notre geste est le même, adapté, évidemment, au caractère ambulatoire. Mais derrière, effectivement, il doit y avoir l'organisation avec l'infirmière en ville, le kinésithérapeute, le médecin traitant. Donc, c'est une organisation. Et donc, pour des chirurgies très complexes, on a vu dans la presse les chirurgies ambulatoires, par exemple pour les prothèses totales de hanche, donc chez certains patients, évidemment, il faut que ce soit extrêmement bien sélectionné parce que tout patient ne peut pas être en ambulatoire. Mais on a aujourd'hui une autre...
Oui, il ne faut pas qu'il y ait non plus une dictature de l'ambulatoire.
Absolument, hein. Il ne faut pas qu'il y ait une dictature, je dis, ça ne se fait pas au détriment de la qualité des soins pour le patient. Mais aujourd'hui, on a aussi une autre avancée, on va dire, qui est ce qu'on appelle le RAC, qui est donc la récupération améliorée après chirurgie, le but étant, là aussi, d'organiser de telle sorte que le patient reste le moins longtemps possible à l'hôpital. Par exemple, pour la prothèse de hanche, la prothèse de genou, le patient va rester 2 jours, 3 jours à l'hôpital au lieu de rester 6 ou 7 jours. Et là aussi, c'est une organisation et une coordination entre la ville, les acteurs qui seront en ville, et les soignants et l'hôpital. Et donc, une préparation à cette chirurgie.
Alors, parmi les avancées qu'il y a eues, on parlait tout à l'heure des différentes prothèses, il y a les matériaux même des prothèses, le passage de la céramique au titane, à d'autres, puisqu'on a fait même j'ai vu que les Australiens avaient remplacé des vertèbres, carrément des corps vertébraux, un sternum a été remplacé en Chine avec en titane, du plexiglas pour les os du crâne. On va voir la pensée au travers, hein, maintenant. voilà. C'est le scalp qui permet de voir le plexiglas. Est-ce que vous, là-dessus, est-ce qu'il y a des développements encore? Vous attendez d'autres, surtout pour la durée de ces prothèses? Parce que finalement, c'est ça. Vous mettez en place une prothèse comme ça ou un matériel. Combien de temps est-ce que ça va fonctionner?
Absolument. Donc, il y a eu d'énormes avancées sur la métallurgie, déjà, la façon de façonner une prothèse. Les couples, de ce qu'on appelle le couple de frottement, c'est-à-dire ce qui va faire la mobilité du articulation. Vous avez cité la céramique, par exemple, qui a été une grande avancée pour la prothèse de hanche, puisque auparavant c'était un frottement entre du métal et un plastique spécial très dur, bien sûr, mais qui, comme vous le dites, pouvait s'user. Et chaque patient ayant une usure, on va dire, il va user son articulation d'une façon différente. Donc c'est très difficile de reproduire cette usure. Et sur les phénomènes biologiques qui vont se passer au niveau de l'articulation avec cette usure, certains vont faire des réactions inflammatoires très importantes, alors que d'autres ne vont pas faire de réaction inflammatoire et vont très bien tolérer et peu user leur prothèse. Donc là aussi, il y a des facteurs biologiques qu'on ne maîtrise pas complètement. Mais effectivement, les coupes de frottement ont beaucoup changé. Les matériaux, l'acier inoxydable, titane qui a été beaucoup développé pour la chirurgie de la colonne, par exemple, permettant de faire des IRM. Aujourd'hui, on a des revêtements qui commencent à avoir antibactériens. Donc, il y a beaucoup de travaux, parce que vous savez qu'un des problèmes de la chirurgie orthopédique, c'est l'infection. Parce que l'os se défend très mal contre l'infection. Et plus on va faire des chirurgies ambitieuses, compliquées, plus le risque infectieux augmente. Donc, aujourd'hui, il y a des travaux, des choses intéressantes sur des revêtements antibactériens. Donc, il y a tout le temps des innovations et ça va continuer dans les procédés de fabrication. Je pense qu'on parlera peut-être des impressions 3D.
On y vient.
Voilà, on y vient. Donc aujourd'hui, quand on fait une prothèse, on va la façonner, on va dire. On va partir d'un bloc de métal et puis une machine-outil va former cette prothèse en évidant.
Parce qu'avant, il y avait des prothèses standards. On disait une petite, une moyenne, une grande.
Voilà, il y a toujours ces prothèses. Alors, on a des gammes de plus en plus variées, mais elles ne peuvent pas s'adapter à toutes les situations de façon absolument parfaite. Donc, l'idée est d'avoir quelque chose un peu sur mesure systématiquement.
Alors, parlez-nous un petit peu de la 3D. Voilà. C'est une question qui revient beaucoup chez les auditeurs du quotidien du médecin, nos collègues, qui posent la question sur est-ce que l'image en 3D, l'impression, je dirais, en 3D, est quelque chose qui vous est déjà utile et qui va se développer?
Alors oui,
Professeur Charlecourt.
Il y a plusieurs choses à distinguer. Il y a l'impression 3D, où là, il y a deux façons de voir les choses. Il y a une première, L'impression 3D, le principe est donc, à partir de scanner, pardon, ou d'IRM, ou les deux, de reconstruire en trois dimensions un modèle. Alors, par exemple, ça peut être une tumeur du bassin dans une région complexe avec beaucoup de des vaisseaux, des nerfs. Donc, on va reconstruire à l'aide d'une impression 3D un modèle en résine qui va permettre, par exemple, au chirurgien d'exactement étudier de façon en trois dimensions et sous ses yeux préparer son intervention.
Est-ce que ça veut dire qu'il le répète, ça peut
exactement
être pédagogique?
Absolument pédagogique, ça lui permet de préparer son intervention, de dire je vais mettre une vis à tel endroit, dans telle direction. Il va pouvoir se servir de ce modèle dans certains cas pour faire des guides de coupe osseuse, c'est-à-dire pour être sûr que l'on coupe bien l'os à distance d'une tumeur, par exemple. Et donc, on va faire fabriquer un guide de coupe, ça s'appelle, et on coupera exactement à distance de la tumeur. Et on connaîtra exactement la zone qu'il faut reconstruire ensuite, puisque ça sera quelque chose de bien déterminé à l'avance. Donc, ça permet de planifier une chirurgie de façon très précise. C'est pédagogique, comme vous l'avez dit. Et puis, on peut aussi coupler ça avec de la navigation. Donc là, c'est encore un autre pan de notre chirurgie. On va peut-être en reparler encore après. Et donc, on va pouvoir s'aider d'un ordinateur qui va améliorer la précision du geste chirurgical grâce à ces reconstructions. Donc ça, c'est un premier intérêt.
Est-ce que vous voulez dire que vous êtes amené parfois à opérer sous forme de robot ?
Ah oui, alors oui, il y a donc d'une part ce qu'on appelle la navigation, c'est-à-dire que on va mettre sur le patient des repères qui vont être reconnus par une machine, un ordinateur, qui va coupler ça avec les radiographies et va pouvoir exactement vous dire où vous vous situez. Par exemple, lorsque vous voulez couper l'os à tel endroit, il va vous dire exactement où vous êtes. Il va permettre de corriger une déformation en donnant exactement la correction à l'angle près qu'il faut pratiquer. C'est une sorte d'aide chirurgicale. Il y a le développement actuellement de robots permettant d'aider la chirurgie. Alors, ce n'est pas le robot qui fait le geste, mais il intègre énormément de données radiologique et millimétrique, et c'est un bras articulé qui va aider le chirurgien à augmenter la précision de son geste. Et pour l'impression, je reviens un peu à l'impression 3D, l'autre intérêt, c'est de construire des implants que l'on va mettre chez le patient
adaptés
sur mesure. Et il y a eu, vous l'avez cité, le sternum, il y a eu une tumeur de la deuxième cervicale là en Chine où ils ont fait beaucoup de bruit autour de ça. L'idée effectivement, c'est de reconstruire on va retirer par exemple une vertèbre pour une tumeur, et on va reconstruire avec un implant adapté exactement à la taille du patient. En l'occurrence, je crois que c'était un enfant, et donc ça permet d'avoir quelque chose de parfaitement adapté.
C'est le problème de l'enfant, c'est que ça va pas grandir.
Alors le problème, c'est que ça va pas grandir, donc du coup, effectivement, il faut bloquer en plus ces vertèbres chirurgicalement pour empêcher qu'une partie grandisse et pas le reste. Mais effectivement, ça ne grandira pas. Aujourd'hui, il n'y a pas encore les prothèses de croissance.
Mais on va parler tout à l'heure, d'ailleurs, de peut-être, je dirais, des cellules souches et de l'intégration qui, justement, pourrait suivre la croissance osseuse. Donc, finalement, ce sont des imprimantes où l'encre sera faite de plastique, de métal ou de matériel biologique.
Ouais. Alors aujourd'hui, il y a des impressions avec du titane. Hein, c'est de la poudre de titane qui est fusionnée, micro-fusionnée au laser. L'intérêt aussi par rapport à l'usinage, c'est que ça permet de faire des matériaux extrêmement poreux. Par exemple, des structures, ce qu'on appelle le nid d'abeille. Hein, vous voyez ce que c'est qu'une ruche, ces nids d'abeille. Ça ressemble un peu à la structure de l'os. Et on attend beaucoup de ces imprimantes 3D justement pour reconstruire et faire une porosité, c'est-à-dire des micro-trous.
Pour que le tissu recolonise la prothèse.
Repousse à l'intérieur. Et ça, c'est très difficile à faire en usinage classique avec des machines-outils. Donc ça, c'est un très grand intérêt.
Et combien de temps il faut, par exemple, pour faire une prothèse adaptée, enfin ça dépend bien sûr de laquelle je suppose, mais grosso modo vous avez un patient avec vous, vous avez compris qu'il faut l'opérer, vous voulez l'opérer, il accepte d'être opéré et vous allez faire sur mesure.
Alors donc aujourd'hui il y a deux façons de faire le sur mesure, soit on va dire classiquement, c'est-à-dire qu'on va envoyer les informations à un industriel qui va fabriquer une prothèse sur mesure avec les dimensions qu'on a demandées. Mais là, il va l'usiner et ça prend 3 semaines, 1 mois. Avec l'impression 3D, c'est quelque chose qui va, on va envoyer, ça va se faire en 24-48 heures. Donc c'est intéressant sur de la chirurgie tumorale, par exemple, où on ne peut pas attendre 3 semaines, 1 mois dans certains cas. En revanche, pour l'instant, fabriquer une prothèse en impression 3D, ça reste encore du domaine de la recherche parce qu'on ne connaît pas encore les qualités mécaniques que donnera cette prothèse, parce que ce ne sont pas les mêmes procédés de fabrication. Donc les résistances mécaniques, la biocompatibilité...
C'est pas le même matériau, quoi.
Voilà, exactement.
Donc, vous n'avez pas au long terme
voilà,
des choses comme
exactement.
Ça, exactement.
Donc ça reste à étudier, mais c'est forcément une voie extrêmement intéressante de recherche.
Oui, il y en a une aussi, il y a une colonisation biologique qui va se faire, qui va se mêler à cette porosité que vous évoquez, et l'autre qui est plus solide, là, le titane classique, on va dire, pour prendre cet exemple-là. Quel est le coût de cette troisième dimension, là? Où est-ce qu'on va?
Une imprimante 3D pour faire du titane, hein, pas pour faire des petits modèles en résine, c'est de l'ordre, je crois, €1 million, la machine. Après, il faut mettre les ingrédients dedans, donc ça, je connais pas le coût que ça représente. Aujourd'hui, ça reste quand même des investissements lourds,
mais on pourrait avoir un investissement pour plusieurs services,
bien
par
sûr.
Exemple.
Ça serait...
Alors, oui ou non?
Mais alors là, c'est un petit peu la chose. C'est-à-dire, vous prenez le point sensible de la fabrication. Effectivement, on pourrait imaginer que un hôpital puisse avoir son imprimante 3D et faire ses propres implants. Ça, c'est une voie extrêmement dangereuse. Parce qu'aujourd'hui...
Non, moi, c'était plutôt qu'il y avait, disons, un prothésiste, j'ai envie de dire.
Oui, un fabricant.
Un fabricant qui est sur plusieurs, avec un réseau.
Ah voilà, donc le fabricant, lui, il peut investir dans une machine comme ça, puisque lui, il aura...
Il aura plusieurs demandeurs.
Plusieurs demandeurs. Mais ce qu'il ne faut pas imaginer qu'un hôpital va fabriquer ses propres implants, puisque là, effectivement, pour fabriquer des implants, il faut... des normes.
Oui, bien sûr. Non,
il est hors de question.
Plutôt une organisation financière.
Sûr. Oui, bien sûr.
Voilà. Nous allons nous arrêter un instant avant d'aborder ultérieurement les différentes pathologies, surtout le rachis. Et nous commencerons cette deuxième partie sur le problème de la fabrication de l'os avec les cellules mésenchymateuses, cellules souches, dont on parle tout le temps et dont il faut parler dans un instant. Voilà, vous êtes sur France Culture, Révolution Médicale. Nous parlons orthopédie avec le professeur Charles Cour. Et comme vous le savez, nous sommes en partenariat avec le quotidien du médecin. Et ça permet à tout le monde d'aller soit sur le site de France Culture, soit sur le site du quotidien du médecin pour poser, répondre et avoir les réponses à vos questions. Alors, nous avons un peu balayé l'évolution de cette orthopédie, son histoire, près de 100 ans la société donc d'orthopédie avec le professeur Charles Cour, les différents matériaux, surtout l'impression 3D là qui semble quand même très prometteuse pour, dans les cas complexes, s'adapter à chaque patient. Et en fait, je voulais vous poser comme question, Charles Cour, pour cette, est-ce qu'on peut accélérer la consolidation osseuse? Vous avez une fracture, vous l'avez réparée, mais des fois ça traîne.
Oui, alors aujourd'hui, on ne connaît pas encore parfaitement les mécanismes de la consolidation osseuse, c'est assez paradoxal, mais nous avons des agents, les BMP, les bandes morphogénétiques protéines, qui ont été identifiés dans les années 65. Donc il y en a pour l'os, qui donne des résultats extrêmement intéressants dans certaines indications. Aujourd'hui, c'est, le seul adjuvant, c'est-à-dire produit que l'on peut mettre au niveau de la fracture ou au niveau...
Vous voulez dire localement?
Localement, oui, on met localement. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore de traitement par voie générale. Boire du lait ou manger des yaourts, ça ne change pas grand-chose.
Parce que ce qu'on disait, c'était que en fait, l'os n'est pas du tout un tissu inerte.
Alors, oui.
Donc absolument. Ça, peut-être, pouvez-vous nous en dire un mot, la différence entre les ostéoclastes et les ostéoblastes.
Voilà, donc le tissu osseux, c'est comme tout, c'est un tissu vivant qui se remodèle en permanence. C'est-à-dire que des cellules au sein de l'os meurent et d'autres construisent. Donc les ostéoclastes, par exemple, c'est celles qui vont détruire l'os. C'est ce que l'on va voir aussi dans certaines tumeurs, par exemple, qui vont ronger l'os, parce qu'il y a une hyperaction des ostéoclastes. Et puis ceux qui vont construire l'os, ce sont les ostéoblastes. Ces cellules, donc il faut qu'il y ait évidemment un équilibre entre la destruction et la construction. Et ça, c'est quelque chose qui se fait en permanence dans notre organisme, sans que nous en rendions compte. C'est pour ça qu'il faut avoir des apports nutritionnel équilibré en vitamine D, en calcium, de façon à répondre à ce remodelage osseux. Ensuite, avec le vieillissement, et en particulier avec l'ostéoporose, il va y avoir un déséquilibre dans cette régénération osseuse et l'os va perdre de sa qualité mécanique, ce qui explique les fractures de l'ostéoporose qui sont bien sûr en augmentation, étant donné l'augmentation de l'espérance de vie, ce qui est une chose merveilleuse, mais qui va occasionner beaucoup plus de fractures, en particulier sur l'extrémité proximale du fémur.
Alors, sur le plan biologique, est-ce qu'il y a des recherches actuellement pour justement booster ces ostéoblastes ou bien les remplacer par des cellules mésenchymateuses que l'on dirigerait vers cette spécialisation?
Alors bien sûr, les ostéoblastes et ostéoclastes viennent de cellules dites multipotentes qui sont donc au sein de l'organisme, au sein de la moelle osseuse. Et donc l'idée évidemment c'est d'arriver à utiliser ces cellules et les différencier, les faire devenir des ostéoblastes ou des ostéoclastes et améliorer cette consolidation, cette réparation osseuse. Aujourd'hui, bien sûr, beaucoup d'axes de recherche sont sur ces domaines-là, puisque c'est aujourd'hui, ça reste encore un problème, cette consolidation osseuse. Ça reste un problème, par exemple, dans les reconstructions de pertes de substances osseuses importantes, comme par exemple dans certaines grandes fractures où quelqu'un va avoir un accident et perdre plusieurs centimètres de tibia ou de fémur. Il va falloir reconstruire ce fémur. Aujourd'hui, à notre disposition, on a l'os du patient qu'on va prendre sur une zone non utile.
Un implant, quoi.
Oui, on va utiliser, par exemple, on va pouvoir prendre sur son bassin à un certain endroit peu stratégique, on va dire. On va utiliser son os, on va le mélanger avec de l'os synthétique. Mais bien sûr, il faut mettre des facteurs de croissance, il faut pouvoir mettre des cellules multipotentes qui pourraient se différencier localement et fabriquer de l'os. Donc aujourd'hui, ça reste une voie de recherche extrêmement importante. Et à part les BMP, pour l'instant, on n'a pas encore de choses très probantes.
Avant qu'on aborde ce qui se fait assez couramment, donc maintenant c'est la chirurgie du col du fémur et du genou, je voudrais qu'on passe un peu de temps sur une zone qui était un peu, mise à l'écart, c'est le rachis. Hein, le rachis, avec, on va parler un peu des lombalgies, des douleurs de dos, des lombalgos. Enfin, pourquoi est-ce qu'on est amené à intervenir sur le rachis? Mais on a toujours eu peur d'intervenir parce que, un, ça fait mal. Deux, on a peur de l'infection et des troubles de paralysie. Alors, on l'a vu dans les années 80 ou 90, revenir quand même un peu plus, peut-être même un peu plus récemment, cette proposition chirurgicale du rachis, enfin de plus en avoir peur, mais par contre de bien mesurer à qui ça s'adresse. Alors, ma première question, professeur Charlecourt, c'est effectivement, quand faut-il passer à la chirurgie pour les problèmes de dos?
Alors, effectivement, c'est une chirurgie qui a extrêmement évolué depuis, comme vous l'avez dit, un certain nombre d'années. D'une part, parce qu'on a mieux diagnostiqué les problèmes, on les a mieux identifiés, et ça grâce en particulier au progrès de l'imagerie. Il y a d'abord eu le scanner, et puis l'IRM qui l'a apporté, a fait faire un bond phénoménal à l'exploration du rachis, et cette relation particulière entre l'os, les disques intervertébraux, et les nerfs qui sont au sein des vertèbres. Donc ça permet de mieux démembrer, on va dire, et identifier les problèmes diagnostiques. Donc, quand on fait mieux un diagnostic, on fait un meilleur traitement. Ensuite, les techniques chirurgicales se sont extrêmement développées, puisque on est passé de chirurgie extrêmement agressive, on va dire, un peu délabrante, excusez-moi de l'expression, à des chirurgies beaucoup moins invasives. Il y a eu beaucoup de développement de chirurgie mini-invasive. Le but de la chirurgie mini-invasive, c'est de protéger la musculature, d'épargner
la musculature. On ne coupe plus les muscles.
Voilà. Du muscle du dos, puisqu'ils ont une fonction extrêmement importante. Donc, d'essayer de les épargner. Et donc aujourd'hui, on va faire par des petites incisions, on va pouvoir faire des arthrodèses, c'est-à-dire bloquer des vertèbres ou mettre une prothèse discale. On va pouvoir retirer une hernie par un trou de 18 mm, ou voire même avec des techniques percutanées. Aujourd'hui, on va faire des ostéosynthèses, c'est-à-dire on va mettre des vis dans les vertèbres à travers des petits trous percutanés, sous contrôle radiologique. Et donc, on a beaucoup évolué sur le diagnostic, l'imagerie, le diagnostic et le traitement. Alors, comme vous le dites, la chirurgie du rachis avait une mauvaise réputation, probablement parce qu'on ne savait pas bien identifier l'origine.
Pardon. C'était l'os lui-même, la vertèbre, la partie postérieure de la vertèbre, voilà, les disques, et l'anneau ou pas qui était atteint.
Voilà, parce que la colonne vertébrale est une structure extrêmement complexe, dans laquelle il y a des os, des articulations, beaucoup d'articulations, un disque intervertébral, des tendons, des muscles et des nerfs. Et donc, beaucoup de choses peuvent donner des douleurs. Toutes ces éléments, ces structures que j'ai citées peuvent donner des douleurs. Donc, il faut savoir les identifier. Donc, lorsque l'on a, par exemple, une hernie discale, c'est-à-dire un fragment de disque qui vient écraser un nerf et donner des douleurs de sciatique, c'est-à-dire des douleurs qui vont dans le membre inférieur, on sait qu'un certain nombre, par exemple, de ces hernies, de ces douleurs, vont guérir avec un traitement médical. En revanche, un certain nombre de patients vont résister, c'est-à-dire au traitement médical, c'est-à-dire que la douleur va persister au-delà de 3 mois, par exemple. Et à ce moment-là, une chirurgie qui va consister à retirer la hernie va soulager le nerf et soulager des douleurs. Mais ce qu'on ne sait pas faire aujourd'hui, c'est reconstruire ce disque. Aujourd'hui, le disque vieillit, comme toutes nos structures de l'organisme. Avec le vieillissement, ce disque va s'abîmer, il va faire ce qu'on appelle une discopathie, et entraîner des douleurs, éventuellement une compression d'un nerf. Aujourd'hui, on sait traiter le symptôme, retirer la hernie, mais on ne sait pas refaire le disque. Là, on parlait d'ingénierie tissulaire tout à l'heure. Ouais. Ça, c'est un domaine, effectivement, de développement extrêmement intéressant. C'est de comment refaire un disque, comment le réhydrater, comment lui redonner de la cellularité, comment lui redonner de la fonction. Ça, c'est tout le domaine de recherche de l'ingénierie tissulaire. À partir des cellules du patient, refaire une partie de l'organe, ça peut être aussi les tendons, ça peut être de l'os, à partir des cellules du patient.
Et alors, qu'est-ce que c'est cette technique de vertébroplastie, celle qui permet d'injecter, de gonfler, pour maintenir les vertèbres à distance, et puis d'injecter à l'intérieur du ciment, alors, comme les digues.
Donc, la vertébroplastie, ça a été inventé par un radiologue français, Hervé de Ramon, qui a eu l'idée de renforcer une vertèbre avec du ciment. Puisque avec l'ostéoporose, par exemple, les vertèbres s'affaissent, se fracturent, et donc les patientes perdent de la taille, ont des douleurs. Donc l'idée est de renforcer cette vertèbre en injectant du ciment à l'intérieur. Alors ces techniques de cimentoplastie ont évolué. Aujourd'hui, vous avez des systèmes, comme vous l'avez dit, d'expansion vertébrale, c'est-à-dire que l'on va mettre à l'intérieur de la vertèbre une sorte de cric ou un ballon qu'on va gonfler, qui va réexpandre et redonner la hauteur de la vertèbre, et on va la renforcer avec du ciment.
Mais c'est lourd quand même le poids qui pèse sur cette vertèbre.
Alors on y arrive si c'est fait précocement, ça se fait sous anesthésie générale dans ce cas-là et pas sous anesthésie locale. Et puis
quand on n'a pas besoin d'écarter les vertèbres, on peut même injecter le ciment sous anesthésie locale.
Sous anesthésie locale, oui, absolument. La vertébroplastie, ça se fait sous anesthésie locale. Les expansions vertébrales que vous citez, elles nécessitent une anesthésie générale, puisque comme vous dites, il faut quand même exercer une force importante dans la vertèbre pour lui redonner sa hauteur. Et donc ces techniques, par exemple, elles ont été développées pour aussi les fractures chez les sujets jeunes. Traumatisme de la route, fracture de la vertèbre. Dans certains cas, on peut effectivement, à travers un petit trou, rehausser la vertèbre, mettre du ciment et éviter ces opérations que l'on faisait auparavant en mettant des vis et des tiges.
Donc, évidemment, nous ne disons pas, et vous ne dites pas, je pense, qu'il faut opérer toutes les douleurs du dos. Sûrement pas, mais il faut savoir qu'il y a une place importante pour la chirurgie qui a repris sa place, ou qui a développé sa place plutôt, parce qu'il y a beaucoup d'arthrose, il y a beaucoup d'instabilité, il y a beaucoup de tassement, et puis il y a ces fameuses hernies qui peuvent faire souffrir, malgré les traitements ou tout ce qui peut entourer. Alors, et puis il y a aussi quelque chose de particulier, qui sont les métastases osseuses. Traite et on guérit beaucoup de cancers, mais des fois, il y a des complications. Et donc là, vous êtes parfois confronté à des métastases osseuses qui viennent justement sur le rachis.
Oui, le rachis, c'est la première localisation des métastases osseuses. Donc, le risque quand ça va sur une vertèbre, c'est d'une part de la fragiliser et que l'on ait une fracture de la vertèbre, ou alors que cette tumeur se développe et vienne comprimer la moelle épinière ou les nerfs et entraîner une paralysie, et puis des douleurs très importantes. Donc, dans ces cas-là, il y a une prise en charge qui est toujours multidisciplinaire, avec les oncologues, avec les radiologues, pour savoir quelle est la meilleure stratégie à adopter. On fait le maximum de traitements préventifs, c'est-à-dire que on va par exemple faire des cimentoplasties aussi pour renforcer la vertèbre, mais dans certains cas de destruction importante, il va falloir opérer. Et dans ces cas-là, on va mettre des vis, des tiges pour tenir la colonne, et puis on va décomprimer la moelle pour éviter qu'une paralysie s'installe, ce qui est évidemment la catastrophe sur le plan fonctionnel.
Est-ce que là, la trois dimensions dont on parlait vous permet d'avoir une cartographie de la tumeur plus précise ?
Alors, voilà, l'IRM déjà permet d'avoir une précision de tout ce qui entoure la moelle, de voir cette compression. On se sert pendant l'intervention de l'imagerie 3D, on en a parlé tout à l'heure. L'imagerie 3D, ce sont des appareils, des sortes de scanners péropératoires qui vont permettre de voir exactement dans les trois dimensions, en particulier le placement des vis, parce que quand on met une vis dans une vertèbre, c'est assez compliqué. Il y a des structures extrêmement dangereuses tout autour de la vertèbre, en particulier la moelle, les gros vaisseaux. Et donc, il faut être sûr qu'on est au bon endroit. Et là, on se sert de l'imagerie en trois dimensions, ou de la navigation éventuellement, c'est-à-dire des systèmes de genre de GPS qui vous aident à être très précis pour la mise en place des implants.
Qu'est-ce qu'on pourrait dire en termes de prévention de cette pathologie qui est quand même importante ? Vous avez signalé 140 000 ou je ne sais plus combien de prothèses de hanches posées, tout confondu, c'est-à-dire arthrose, dégénérescence et fracture. Est-ce qu'il y a des règles à donner, surtout pour les personnes âgées ?
Alors, les règles, ce sont effectivement de garder une activité physique importante. Ça, on le sait, c'est surtout pour l'ostéoporose. On sait qu'il faut marcher tous les jours, tout le monde le sait, pour garder cette qualité mécanique de l'os, puisque là aussi, c'est une voie de recherche très intéressante, c'est de savoir la relation entre la mécanique et la biologie, c'est-à-dire les stimuli mécaniques que nous faisons au quotidien sur notre squelette, ont une transmission biologique, c'est-à-dire qu'un os qui est très sollicité va se renforcer et faire une construction importante à un os de bonne qualité. Donc contre l'ostéoporose, c'est bien sûr la marche, une alimentation variée, en particulier en vitamine D, en calcium. Pour ce qui est de l'arthrose aujourd'hui, il n'y a pas encore de traitement préventif et de traitement médical contre l'arthrose. Il faut garder une bonne hygiène de vie. Alors le surpoids est un facteur de risque de destruction.
Il y a des médicaments, non, qui essayent de renouveler.
Il y a des injections, on peut faire des injections d'acide hyaluronique, par exemple, qui sont une viscosupplémentation. Il y a quelques protecteurs du cartilage, mais les résultats sont quand même pas probants. Et souvent, ils interviennent à un stade où déjà l'arthrose a commencé, où il manque du cartilage. Hein. L'arthrose, c'est une perte du cartilage. Aujourd'hui, on ne sait pas encore traiter cette arthrose, on ne sait pas refaire son cartilage.
Et en préventif non plus.
Pas encore de façon probante. Mais ce sont les voies de recherche. Là, c'est évidemment l'enjeu de la recherche actuellement, c'est cela, puisque avec le vieillissement de la population, l'arthrose est la maladie chronique la plus répandue et qui va jouer sur toutes les articulations, qui va jouer aussi sur la colonne vertébrale, entraîner des rétrécissements du canal lombaire et entraîner
alors oui,
les
rétrécissements du canal lombaire, c'est quoi? C'est le syndrome du chariot, là, comme
voilà,
on dit.
Du caddie.
Du caddie.
Oui,
c'est quoi?
Alors, l'arthrose va diminuer le diamètre du canal lombaire, le canal vertébral, où passent, en fait, tous les nerfs qui vont vers les membres inférieurs. Ce rétrécissement va entraîner soit des douleurs de type sciatique dans les jambes, soit une gêne à la marche, c'est-à-dire qu'une fatigabilité à la marche au bout d'une certaine distance, eh bien, soit les jambes sont un peu lourdes à mobiliser, on a du mal à passer le pas, ou des douleurs, et on est obligé de s'arrêter, de se pencher en avant, comme vous le signalez, on attend, et puis on peut repartir. Donc c'est ce symptôme-là qui est assez caractéristique. Et effectivement, souvent on voit des personnes prendre une canne, par exemple, ou prendre un signe du caddie, c'est-à-dire un chariot dans un supermarché qui va les aider, parce qu'ils sont un petit peu voûtés, et du coup ça permet de mieux marcher. Et là, il y a des traitements, là aussi, c'est l'arthrose qui va, il va falloir opérer pour libérer le canal, retirer cette arthrose, gratter, on va dire, l'arthrose et permettre aux nerfs d'avoir plus de place et redonner, que l'influx nerveux vers les jambes repasse à nouveau pour que les gens puissent récupérer leur autonomie.
Alors, puisque vous faites traumatologie et orthopédie, et en traumatologie, juste peut-être pour nos auditeurs avant qu'ils ne prennent la route cet été, en cas d'accident, je dirais, et lorsqu'on voit un blessé, voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme règle, on va dire, que vous pourriez donner devant un accident de la route?
Alors déjà, toutes les règles de sécurité que nous connaissons, de mettre la signalisation qui va bien pour éviter qu'un autre accident ne se produise. Ça, c'est bien sûr la première chose à faire, mettre les vestes fluorescentes, enfin, toutes les consignes que nous connaissons tous en tant que conducteur. Ensuite, bien sûr, appeler les secours et puis prendre des mesures de sécurité pour les patients. C'est-à-dire, ce serait peut-être un petit peu long d'en parler, mais prendre les mesures de secourisme que tout un chacun devrait apprendre d'ailleurs et devrait se former pour être capable de libérer les voies aériennes, vérifier que le patient arrive encore à respirer, ventiler, ne pas chercher forcément à l'extraire du véhicule, sauf en cas d'incendie ou de chose très grave, et puis ne pas le mobiliser, en particulier un motard, pas lui retirer son casque, ne pas le mobiliser, puisque s'il a une douleur de la colonne, une fracture de la colonne vertébrale, celle-ci peut entraîner un déplacement et une paralysie. Donc il va falloir le mettre en position de sécurité.
Alors c'est quoi la position latérale de sécurité?
Ben, c'est ce qui permet justement d'éviter que le patient, de libérer les voies aériennes pour que le patient puisse respirer, éviter qu'il inhale, c'est-à-dire que dans les poumons passe, par exemple, s'il vient de prendre un repas, qu'il y ait un vomissement et que ça se passe dans... ça inhale les poumons et qu'il s'étouffe. Et puis ça permet donc d'éviter que la langue, s'il est inconscient, la langue ne tombe dans l'arrière-gorge, empêche la ventilation. Mais cette position de sécurité, il faut la faire coordonnée à plusieurs, de façon à éviter des mouvements
de torsion
au niveau de la colonne, par exemple.
Est-ce que vous pensez qu'il y a suffisamment d'orthopédistes, de chirurgiens orthopédistes dans notre pays?
Alors actuellement, donc nous sommes près de 3000 chirurgiens orthopédistes. C'est une spécialité qui est assez demandée, mais il y a de la place pour les chirurgiens orthopédistes, parce que le vieillissement de la population fait que l'arthrose, tant qu'il n'y a pas de traitement, et les fractures de l'ostéoporose, là il y a des traitements en revanche, vont continuer d'augmenter. La traumatologie continue d'augmenter avec la population qui augmente, ça c'est un fait, et nos déplacements de plus en plus motorisés. C'est difficile de dire, si vraiment, qu'en tout cas les orthopédistes ont du travail, et beaucoup de travail, parce que... Alors peut-être sommes-nous un peu, par rapport à d'autres pays, notre densité est un peu plus faible que dans d'autres pays. Mais d'autres pays européens, ils font aussi tout le côté médical, ce que font aujourd'hui les rhumatologues en France. Dans certains pays, il n'y a pas de rhumatologue au sens propre du terme. Et une grande
partie... C'est-à-dire que c'est le même médecin qui fait rhumato et...
Oui, c'est-à-dire que toute
la chirurgie.
Oui, c'est-à-dire que ils vont traiter beaucoup de la pathologie dégénérative, arthrosique, médicalement. Avant d'opérer, alors qu'aujourd'hui, ce sont le médecin traitant et le rhumatologue qui vont faire la première partie de la prise en charge, les infiltrations par exemple, les traitements médicamenteux, et lorsque ces médicaments ne sont plus efficaces, vont adresser le patient pour de la chirurgie vers l'orthopédiste. Dans beaucoup de pays européens, ça ne se passe pas comme ça.
Est-ce que vous voyez, si je vous pose la question, quel est l'avenir de l'orthopédie, vous axeriez sur quoi?
Alors, sur les innovations, vous voulez
ouais,
dire
qu'il y a, ouais.
Alors, les innovations, ça va être la bioengineering, ça c'est la biologie tissulaire, hein, l'ingénierie tissulaire, pardon, ce qui va permettre donc de refaire des tendons, refaire des os à partir des cellules du patient, donc son tissu à lui, qu'on pourra réimplanter. Et donc, ça c'est un enjeu, refaire le disque intervertébral, donc quelque part empêcher ce vieillissement auquel nous sommes tous atteints, dont nous sommes tous atteints. Les techniques chirurgicales vont continuer de progresser, de moins en moins invasives, des durées d'hospitalisation de plus en plus courtes. Des prothèses qui vont sûrement être des bioprothèses, des prothèses bioactives, peut-être des prothèses qui vont être à la fois, on va dire, en acier par exemple, mais recolonisées par du tissu biologique. Une prothèse de genou avec dessus un cartilage biologique. On peut imaginer des choses, déjà il y a des voies de recherche là-dessus qui sont très intéressantes, donc plus seulement que de la mécanique, mais de la mécanique et de la biologie.
Donner une structure qui permet à la biologie d'exceller.
Voilà, d'exceller, de refaire une articulation. Alors, ça c'est de la science-fiction hein, quand même, il faut rester raisonnable.
Ça va vite. Hein.
Et puis, oui, ça va vite. Il y a l'impression, la bio-impression aussi, hein, comme vous l'avez cité, cette espèce d'imprimante biologique, où l'encre est remplacée par des cellules et on va reconstruire en trois dimensions une structure type de l'os avec les cellules du patient. Ça, ce sont des voies de recherche extrêmement intéressantes.
Alors, on n'a pas eu le temps parce que, voilà, c'est trop court, mais sans jeu de mots avec vous, hein, mais parce qu'il y a la chirurgie de la main,
oui.
La chirurgie du pied, qui quasiment sont
oui.
Des sous-spécialités, alors, oui. On va dire, dans votre spécialité.
Oui, l'orthopédie, c'est une des spécialités les plus vastes. Quand un interne commence son cursus, c'est une des spécialités où il y a le plus de connaissances à acquérir. Et aujourd'hui, nous sommes tous de plus en plus hyper spécialisés. C'est-à-dire que nous avons des sur-spécialités, comme vous l'avez dit. Donc aujourd'hui, il y a la main, la chirurgie de la hanche, la chirurgie du genou, la chirurgie de la colonne vertébrale, la chirurgie oncologique, la traumatologie, l'orthogériatrie, la main, enfin l'épaule. Donc de multiples domaines de secteurs, ce qui permet d'avancer, d'être extrêmement expert, puisqu'il faut être capable de... Aujourd'hui, on ne peut plus tout traiter, un chirurgien ne peut plus tout faire, parce que les connaissances sont tellement vastes qu'il faut qu'il soit spécialisé. En général, il y a un domaine de spécialité.
Vous, c'est le rachis.
Voilà, le rachis et les tumeurs.
Ah, voilà. Mais bien sûr, vous avez une équipe et peut-être vous reviendrez, on parlera, je dirais, de mains et de pieds et d'autres avancées de l'orthopédie. Cette émission de René Friedman a été préparée avec la collaboration de Catherine Denet, réalisée par Danny Journeau avec Jean Frédérics à la prise de son. Vous venez d'écouter Révolution Médicale en liaison avec le quotidien du médecin. Vous pourrez retrouver les réponses à vos questions sur le site des deux établissements, Quotidien du Médecin et France Culture. Bien sûr, vous pourrez réécouter cette émission sur le site internet franceculture.fr et sur le site de notre partenaire.